Dans l'auberge espagnole, chaque semaine, nous avons un des représentants de l'antenne montpelliéraine de la Ligue des droits de l'homme pour aborder un dossier, un thème ou voire même une lecture, puisque aujourd'hui, Christine Sévec est avec nous. Bonjour Christine.
Bonjour Gilles.
Elle va nous parler d'un livre qui est sorti en septembre de l'année dernière, un livre de Stéphane Hessel et Edgar Morin, sorti peut-être pour enterrer les frictions entre leurs éditeurs respectifs, mais plus sérieusement, une publication commune qui dénonce le cours pervers d'une politique aveugle qui conduit au désastre et énonce une voie politique de salut public pour annoncer une nouvelle espérance. Tout un programme, à travers vos yeux, Christine, une lecture que vous avez entamée à la sortie du bouquin ?
Pas du tout, en fait. Je l'ai entamée à la suite d'un cadeau de Noël, donc comme quoi il y a des choses bien qui se passent à Noël, et donc on m'a offert ce livre et je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Enfin un livre dont le titre était prometteur, Les chemins de l'espérance, alors qu'aujourd'hui, dès qu'on allume n'importe quel média, on n'entend que des mots comme crise, rigueur, récession, enfin j'en passe, vous n'avez qu'à écouter les informations aux 20h à la télé pour les entendre.
Absolument. C'est deux penseurs qui sont pas des jeunes hommes non plus, je crois 90 et 94 à peu près, une écriture qui reste fraîche.
Une écriture qui reste fraîche, qui est pleine d'espérance. Deux anciens qui se sont unis en fait pour essayer de nous faire rêver en fait, hein, de nous dire la politique c'est plus ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'il faut avoir une nouvelle vie, une nouvelle vue et se poser les bonnes questions, quoi, face à des menaces aujourd'hui qui sont très réelles, hein, qui vont des armes nucléaires aux conflits ethniques et religieux qu'on voit un peu partout dans le monde, la pollution, la tyrannie de l'argent, l'économie mondialisée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut donner un espoir aux jeunes générations? J'imagine que c'est un peu ça dont ils rêvent.
Mmh. Alors, les jeunes générations, alors c'est une espèce de manuel. Comment est articulé cet ouvrage? Parce qu'il n'est pas très volumineux.
Ah non, il fait une soixantaine de pages, hein, donc c'est très très facile à lire. Il pose ce constat, hein, d'un échec qui est mondial et sur lequel on est confronté à pas mal de menaces. Et donc ils se disent, la solution, elle doit être aussi au niveau mondial, au niveau européen et au niveau local. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas mettre un niveau mondial contre un niveau local. Et de se dire pourquoi il faut changer. Il faut changer aujourd'hui parce que on est dans une politique du bien-être matériel, du toujours plus, de la surconsommation, mais on est très très loin d'être dans une politique du bien-être en fait tout court, quoi, du bien-être de l'humain. Et l'idée, c'est de repositionner l'humain au centre du débat et non pas de faire tourner le débat autour de seules les questions économiques et financières. Mmh. Certes, ils font aussi le constat que le libéralisme économique n'est pas que face à des échecs. Il y a aussi un certain nombre de réussites et la première des réussites, c'est que ça a mondialisé le débat et ça a permis aux humains d'avoir une conscience mondiale et de se dire on vit tous sur une même planète.
Alors, il semble bien que ce soit un petit peu le problème. Effectivement, on a le sentiment que aussi à travers beaucoup, même à travers le Internet, le réseau, etc., que finalement les citoyens, à l'échelle du citoyen, les gens sont très mondialisés, mais à l'échelle des États, c'est beaucoup moins évident.
Alors, c'est tout à fait ça le problème. Ils préconisent aussi d'avoir une gouvernance au niveau, de donner déjà une consistance à l'Europe, hein, qui est une vraie volonté politique et une politique commune au niveau européen, mais aussi au niveau mondial, qui est des garde-fous. On a déjà l'ONU, qui est certainement à réformer, à refonder et à en faire quelque chose de plus moderne, mais on peut aussi imaginer des instances planétaires sur tout ce qui est régulation économique, sur tous les problèmes de dégradation de la biosphère et surtout les problèmes de famine et de sous-alimentation. Ceci dit, donc leur solution, moi j'ai trouvé extrêmement originale, c'est à la fois mondialiser un certain nombre de choses, mais aussi démondialiser et restituer au local et au régional et au territorial, donc des autonomies qui sont vitales, comme l'économie sociale et solidaire et l'agriculture vivrière et le commerce de proximité, l'artisanat, et de ne pas non plus dire il y a croissance et décroissance, mais dire qu'il y a des choses qui doivent être en croissance, tout ce qui peut être de l'énergie verte, tout ce qui est les transports publics, l'économie sociale, je viens d'en parler, et aussi de penser à une décroissance de tout ce qui est plutôt pas terrible actuellement, comme l'agriculture industrialisée, les énergies fossiles, la société de consommation et du jetable et l'industrie de la guerre. Donc, à partir de ces solutions préconisées, il développe sur un certain nombre de sujets qui vont être la jeunesse, l'éducation, la culture, le travail et l'emploi, un certain nombre d'idées. Ils veulent que ces idées, en fait, forment un espèce de socle sur lequel on réfléchirait à créer, non pas à réformer des partis politiques qui sont devenus sclérosés extrêmement loin de la population, mais recréer un nouveau parti politique qui porterait des idées et surtout une idée d'une société différente et nouvelle, et portée par le progrès.
Mmh. Alors effectivement, ils disent de ne pas promettre de cadeaux aux partis en place. L'intention est effectivement de créer un espèce de mouvement populaire universel. Peut-être pour terminer, à la lecture de ce bouquin, chaque fois qu'on termine un livre, au moment où on lit le dernier mot, on est toujours saisi d'une émotion particulière selon le bouquin. Quand on termine ces 68 pages, comment on se sent à la fin ? Est-ce qu'on est surmotivé ? On est énergisé par cette lecture où on se dit le temps que tout le monde comprenne ça, il y a du chemin.
Je crois que un peu tout, en fait. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement motivant parce que j'ai trouvé que c'était une vision qui était très décalée du discours ambiant actuel sur les présidentielles et les législatives où on nous sert à rien de neuf, ni à droite ni à gauche, peut-être un peu chez les écolos. Et à la fois on est un peu stupéfait par l'ampleur du travail à faire, même si c'est évident qu'on peut faire des choses petit à petit, que tout va pas se mettre en place en un jour, qu'il faudra des années, mais je pense que là-dessus la France peut être moteur, comme ils le disent, que on peut aussi ouvrir une nouvelle voie. Et si je peux me permettre de conclure avec une phrase de Faulkner, je pense que comme lui, la suprême sagesse, c'est de nourrir des rêves suffisamment grands pour qu'on ne les perde pas de vue. Et là, je crois que ce qui nous offre en 68 pages, c'est un rêve suffisamment grand pour qu'on puisse tous marcher vers ce rêve-là, même si, un rêve, on ne l'atteint jamais, mais on s'améliore.
Voilà, la route est longue, mais la voie est libre, comme disent les Linuxiens. Christine, merci beaucoup. Une lecture donc à conseiller. Stéphane Hessel, Edgar Morin, Le chemin de l'espérance, sorti chez Fayard, donc en septembre 2011. On se retrouvera avec un autre représentant de la Ligue des droits de l'homme mardi prochain. Quant à nous, ce sera dans un petit mois.
Eh ben, merci.